message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
C'est le sixième volet de l'onction. Et nous avons vu qu'il y a différentes mesures d'onction. Et selon ce que Dieu désire pour chacune de nos vies, je voudrais faire un rappel de ce désir que nous avons de servir Dieu. En fait, je ne sais pas si tout le monde a le même désir de servir Dieu. Et c'est là, on est tellement différents les uns et les autres. Nos natures sont tellement différentes. Notre culture est tellement différente. Nos liens familiaux sont tellement différents. Alors, il y a des personnes qui sont appelées par Dieu et qui, vous les voyez, elle démarre avec le Seigneur et elle ne s'arrête jamais parce que, voilà, c'est des gens qui en veulent. En fait, je souligne au passage que ce sont vraiment les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. S'il n'y a pas ce désir profond dans notre cœur de prendre la main du Seigneur jusqu'au bout de notre vie, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Il y en a d'autres qui vont plus doucement, qui vont à un rythme moins soutenu, mais qui aussi aiment le Seigneur et qui avancent à leur rythme. Tout ça pour vous dire que dans le peuple de Dieu, il y a des membres différents, il y a des passés différents dans les personnes, et Dieu va s'accommoder de toutes ces choses pour nous accorder les dons de grâce qui sont nécessaires pour que nous le servions. Alors, je voudrais que nous nous rappelions quatre principes concernant l'appel au ministère. J'aimerais qu'on se souvienne ce passage d'Hébreux 5. S'il vous plaît, Hébreux 5, c'est quelque chose, versets 1 et suivant, on les a lus la semaine dernière. Mardi dernier, pardon, mais je voudrais que dans vos Bibles, vous souligniez ces passages parce qu'ils sont tellement importants. Nous avons vu au travers de ces versets du chapitre 5 d'Hébreux qu'il y a un choix de Dieu, un choix de Dieu sur chacune de nos vies, un choix de Dieu sur chacun des services que nous allons accomplir dans le corps. Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que il faut que nous soyons à notre place. Il y a des passages dans l'Écriture qui ne souffrent d'aucune contestation et me vient à l'esprit au moment où je commence cet enseignement. Ces passages de Corinthiens. Dans les Corinthiens, il nous est dit, dans le chapitre 12, et à partir du verset 18, il est dit ceci, 1 Corinthiens 12-18, « Mais maintenant Dieu a placé les membres, c'est-à-dire vous et moi, chacun d'eux dans le corps comme il l'a voulu. » Pas comme nous voulons, comme lui l'a voulu. Ça veut dire que là, il n'y a pas de possibilité pour nous de nous mettre à une place qui ne serait pas désirée de Dieu. Si nous faisons ça, nous serons sans fruit. Si nous faisons ça, nous ne serons pas dans la volonté divine. Si nous faisons ça, eh bien, nous allons peiner dans nos propres vies, dans une espèce de frustration, sachant qu'on a peut-être un appel de Dieu, mais que nous ne sommes pas à la bonne place. Et je connais d'ailleurs plusieurs serviteurs qui ne sont pas à leur place dans leur église, qui au lieu d'être pasteurs feraient pas mal d'être des évangélistes ou des prophètes, mais ils ne sont pas à leur place. Il y a comme une espèce d'engouement depuis, je ne sais pas moi, une cinquantaine, soixantaine d'années, une centaine d'années pour le ministère pastoral. Et le corps de Christ manque affreusement de vrais prophètes, il manque affreusement de docteurs, il manque affreusement de vrais évangélistes. Le pastorat n'est pas un but en soi, il n'est même pas une finalité. Être pasteur nécessite vraiment une grande aide de la part de Dieu pour celui qui est dans le pastorat. Ce n'est pas facile, c'est un des ministères les plus difficiles. Donc, il nous est dit là, très clairement, que c'est Dieu, et Dieu lui seul, qui place chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. C'est la volonté de Dieu d'être dans le corps à la place que Dieu nous a réservée. Regardez le verset 27. Il est dit, or vous êtes le corps de Christ, vous et moi, nous en faisons partie, et ses membres, et nous sommes ses membres, chacun en particulier. Et Dieu a placé les uns dans l'assemblée. Alors, il les a placés comme quoi? D'abord, premièrement comme apôtres, secondement comme prophètes, troisièmement comme docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce, de guérison, etc. Mais tous sont-ils prophètes? Ou alors tous sont-ils pasteurs? Non. Évidemment, non. Donc nous devons bien comprendre que si nous recevons un appel de Dieu, c'est que Dieu a prévu une place pour nous dans le corps. Et quand je rentre dans mon appel, et quand je laisse le Saint-Esprit me qualifier, et quand je vais être établi, il faut que je sois à la place que Dieu a impartie pour ma vie. Sinon, je ne ferai que des dégâts autour de moi. Je vous rappelle ce que Hébreux 5 dit. Que Dieu choisit, que Dieu appelle, que Dieu qualifie et que Dieu établit. Rappelez-vous de ces quatre points. Comme ça que quand vous aurez l'occasion dans vos vies de continuer à vivre votre foi, vous pourrez discerner grâce à ces quatre points si l'église dans laquelle vous êtes, elle est dans la volonté divine. Si le serviteur qui est là ou les serviteurs qui sont là sont vraiment chacun à leur place. Parce que si tu es à la place que Dieu t'a impartie, si tu es à la place où Dieu t'a établi, alors certainement tu porteras du fruit à la gloire de son nom. Donc là, nous voyons qu'il n'y a pas de possibilité de faire comme nous le voulons. Et c'est exactement, voilà, ce soir encore, je vais prendre position contre les organisations humaines qui sont dans l'Église du Seigneur, où on bâtit des écoles bibliques, où on donne aux gens des enseignements et des enseignements, pour en faire uniquement que des pasteurs. C'est vraiment une vraie dramatique. On leur fait passer des examens et des examens et des examens, des UV, des unités de valeur, pour qu'ils réussissent à ces examens dans leur cursus d'enseignement. Et ils sortent avec les unités de valeur et on dit qu'ils sont des pasteurs. Je dis malheureusement que c'est une grande honte pour l'Église du Seigneur. Parce que ces gens qui sortent uniquement avec des UV dans la main, ils n'ont aucune vision de ce qu'est le pastorat. Tu n'es pas pasteur parce que tu as des diplômes universitaires théologiques. Tu es pasteur parce que Dieu t'a placé là. Et que si tu as placé là, tu as des qualités en toi que Dieu a vu en toi, qu'il va purifier dans ta vie pour que tu sois efficace là où il t'a placé. Il est clairement établi dans ce texte que l'on ne peut servir Dieu sans avoir été pris du milieu des hommes, appelé par lui et établi par lui. Pris au milieu de mes frères et de mes sœurs. À qui est ancien, qui est diacre, et qui est pasteur, qui est prophète, du milieu des frères. Et quand il y a un appel de Dieu sur une personne, pour un service, obligatoirement, l'Église doit discerner si la personne qui est appelée, elle est dans le bon appel de Dieu. Parce que l'Église verra le fruit de ton appel. Et tu ne pourras prétendre être au milieu de tes frères, dans un service ou dans un ministère, si tu es agréé aussi de tes frères et sœurs. Vous comprenez bien ces choses. Donc, il est clairement établi que l'on ne peut servir Dieu sans avoir été pris du milieu des hommes, appelé par lui et établi. C'est le processus par lequel le Saint-Esprit agit et nous conduit. Ce n'est seulement que le sceau de sa qualification qui nous rend aptes à servir Dieu selon sa volonté. Souvenez-vous, nous disions le mardi dernier que Dieu distribue des dons de grâce différents par le Saint-Esprit à qui il veut et comme il veut. Tu ne dois jamais jalouser le don de ton frère. Tu ne dois pas non plus prétendre à ce que tu n'as pas reçu de Dieu. Tu dois être vraiment dans la place que Dieu a prévue pour toi. C'est le seul endroit où tu pourras porter du fruit à la gloire du Seigneur. Tu ne travailles pas pour ta vie, tu ne travailles pas pour ton ministère, tu travailles pour le royaume de Dieu. Tu ne travailles pas pour un mouvement d'église. Tu ne travailles pas parce que tu es iste ou hic. Tu travailles pour le royaume de Dieu. Car l'Écriture nous dit d'abord de rechercher, non pas premièrement les mouvements religieux chrétiens, mais le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que c'est clair? Sans le revêtement du Saint-Esprit, nous ne pouvons servir Dieu de manière efficace, car nous avons dit le mardi dernier que la capacité et notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu, ça veut dire que notre compétence et notre aptitude à servir Dieu vient de lui. Tu ne viens pas dans une église avec tes diplômes universitaires, avec ton master 1 ou 2 ou 3 ou 4, tout ce que tu voudras, en disant, voilà, je vais servir Dieu parce que je suis un intellect et parce que je suis un homme érudit, bien construit, bien... Non, non, ça, Dieu n'en a qu'à faire de tout ça. Il n'y a pas de diplôme dans le royaume de Dieu. Tu ne sers pas Dieu avec tes diplômes humains. Tu sers Dieu par le Saint-Esprit, par la qualification unique et précieuse du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est scellé de l'Esprit et qui travaille dans le royaume de Dieu et pour le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui va porter du fruit à la gloire du Seigneur. Et il s'effacera. Il s'effacera devant ses frères. Il s'effacera devant ses sœurs pour que Dieu seul soit glorifié. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ça doit se voir. L'onction. Ça sent bon, n'est-ce pas? Il y a de bons aromates. La bonne odeur du Christ qui sort de ta vie. Pas l'odeur de ta chair. Ça pue. Nous avons vu aussi que quand Jésus s'est fait baptiser, il a, par Jean-Baptiste, alors qu'il n'en avait point besoin, nous avions vu pourquoi Jésus s'est fait baptiser, hein, quand il va dire à Baptiste, il est convenable, il est juste, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Et Jésus va montrer le chemin par lequel nous devons passer, puisque les ordres qu'il a laissés aux disciples, il va dire ceci, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai dit. Il a inauguré le baptême, son baptême, alors qu'il n'en avait pas besoin. Jésus n'était pas pécheur, il était sans péché. Mais il fallait qu'il se fasse baptiser. Il fallait que là, il pose, nous avons dit, un acte prophétique. Le baptême de Jésus n'est ni plus ni moins qu'un acte prophétique posé par le Seigneur pour annoncer sa mort et sa résurrection. C'est le symbole du baptême. Quand tu te fais baptiser, tu rentres et tu es immergé dans l'eau. Toute ta nature disparaît sous l'eau. Tu meurs, ta vieille nature est au fond de l'eau. Et puis tu ressors en résurrection de vie. C'est la résurrection. Eh bien, Jésus a marqué son baptême par ce symbole puissant. Je suis mort, mais je ressusciterai. Et en faisant cet acte, il y a le témoignage du Saint-Esprit qui est venu comme une colombe sur lui. Il y a eu l'attestation de la triunité, de la divinité qui était là au moment où Jésus s'est fait baptiser. On a entendu non seulement la voix du Père qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », mais on a vu aussi l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Il y avait l'attestation que Jésus, l'acte qu'il était en train de faire, était agréé de la divinité. Il était rempli de l'Esprit. Il fallait qu'il rentre dans la puissance de l'Esprit, mais il l'a fait après avoir résisté au diable pendant 40 jours dans le désert. Donc nous voyons là que nous avons des incidences très très fortes. Jésus a, lui, été loin, nous l'avons dit, de toute la plénitude de Dieu. Car en lui, c'est dans les Colossiens chapitre 2, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, de la déité corporellement en Christ. Christ sur la terre était le temple de Dieu sur la terre. Comme vous êtes le temple de Dieu parce que vous, en vous il y a le Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et il va rajouter que celui qui souille son corps, Dieu le détruira. Parce que notre corps a été racheté. Que vous le vouliez ou non, votre corps a été racheté par le Seigneur à la croix. La rédemption est un acte unique. Vous avez été racheté dans votre unité parfaite, esprit, âme et corps. C'est ça l'acte de la rédemption. Donc c'est pour ça que Paul dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Mais celui qui souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. En Christ, en lui, habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Je ne sais pas ce que ça peut faire comme résonance dans votre cœur, mais c'est ce que je sais, c'est que Christ, dans son incarnation, il était mal à l'aise. Lui qui est le Dieu d'éternité qui remplit toutes choses, l'univers entier le remplit par sa présence. Il s'est cantonné à vivre dans un corps d'homme. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va dire, mais je suis à l'étroit dans cette tente qui était son corps. Je suis à l'étroit. Bien sûr qu'il a, le Dieu qui remplit toutes choses, il s'est réduit à habiter dans le corps d'homme. Mais non seulement il a fait ça, mais il est sorti de l'éternité pour entrer dans notre temporel. Il s'est limité à notre temps terrestre. Il en a fait des choses, notre Seigneur. C'est pas le petit Jésus bon marché, hein. Non, non, c'est un grand Seigneur, un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Tout a été fait par lui et pour lui. Il est le commencement de toute chose et la fin de toute chose. Il est l'Aleph et le Tav. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier-né d'entre les morts, le premier-né d'entre les vivants, afin qu'en toute chose, il soit le premier. Et puis il a fait la paix par le sang de sa croix, avec ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Jésus, l'œuvre sacrificielle de Christ à Golgotha, a eu une incidence non seulement sur le plan terrestre, mais sur le plan céleste. Figurez-vous que dans le ciel, il y a eu des lieux qui ont été souillés par la révolte de Satan. Il fallait qu'il y ait ce sacrifice où le sang de Jésus a pu non seulement régler la dette de nos péchés sur la terre, mais aussi, avec ce sang, il a purifié les lieux célestes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Épître aux Hébreux qui le dit, au chapitre 10. Voyez-vous, nous avons tendance à ramener le sacrifice de Jésus à notre petite personne. Mais Jésus, son sacrifice, il est christocentrique, c'est-à-dire Christ en est le centre, mais il est aussi un sacrifice qui est dans l'éternité et pour l'éternité. Est-ce que vous savez que le sacrifice de Jésus encore aujourd'hui déclenche, jusqu'à ce que Jésus revienne, la louange et l'adoration dans le ciel? Est-ce que vous savez que les anges aujourd'hui encore déclenchent la louange et l'adoration à cause de Jésus, à cause du sacrifice? Parce que chaque fois que sur la terre il y a un pécheur qui se repent, alors il y a de la joie dans le ciel. Les anges disent gloire à l'agneau qui a été immolé, dont le sang coule. Et nous retrouvons Jésus encore aujourd'hui dans cette scène de l'Apocalypse au chapitre 5, où nous le voyons assis sur le trône comme un agneau qui comme immolé, sacrifié, la gorge ouverte, le sang coulant. Ça veut dire que tant que le sang coule, la grâce coule. Et alors Paul va dire à un moment donné, et ce que je suis en train de vouloir partager avec vous ce soir, c'est ce que Paul va dire. Ah, si vous connaissiez le don de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous connaissions réellement le don de Dieu, l'amour sans limite de Dieu. Nous avons vu que l'onction qui avait différentes mesures, c'est parce que la mesure principale, la mesure essentielle, c'est Christ qui l'a eu. L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que nous avons vu un peu en aparté mardi dernier. Nous allons continuer notre enseignement. Je voulais en vous en rappeler les points essentiels. Donc on avait vu que cette mesure d'onction, selon les différentes mesures d'onction, nous avons vu que l'onction pouvait déclencher sur les hommes et les femmes qui avaient reçu cette onction, et déclencher des résultats spirituels. Nous voyons par exemple quand l'Esprit Saint est descendu sur le prophète, pas le prophète, le sacrificateur Zacharie, quand il était dans le temple, le père de Jean-Baptiste, le mari d'Élisabeth, quand il faisait son service devant l'autel des parfums, que l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, il nous est dit que quand l'Esprit est tombé, il commença à prophétiser. Voilà une manifestation de l'onction de Dieu qui va t'amener à prophétiser. Nous voyons dans les Actes des Apôtres, Pierre revêtus de la puissance du Saint-Esprit, sortant de la chambre haute avec une hardiesse qu'on ne lui connaissait pas, il va commencer à dire « chef du peuple ancien d'Israël ». Mais parce que le Saint-Esprit le revêtait, il était capable de parler aux puissants. Nous voyons Étienne qui va être lapidé, alors que l'apôtre Paul, le futur apôtre Paul, était là, assistant à sa lapidation, à son meurtre. Il était d'accord pour qu'on tue Étienne. Il ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus, qu'il rencontrera un peu plus tard sur le chemin de Damas. Il nous est dit que l'Esprit de Dieu est sur Étienne et que le ciel s'ouvrit. Il vit Dieu sur son trône et à sa droite, le Fils de Dieu. Est-ce que vous voulez avoir pas une telle onction sur vos vies? De voir le ciel s'ouvrir. Regardez Jean, il dit dans l'Apocalypse, il dit « Oh, je fus saisi par l'Esprit, l'Esprit m'enleva et j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. » Est-ce que vous ne souhaitez pas ces choses? Et pourtant, nous pourrions les vivre. Nous pourrions les vivre. Nous allons parler maintenant de la manifestation de l'onction. Et là, je vais aborder un sujet qui n'est pas facile. Je vais essayer d'être juste dans ce que je vais donner ce soir. Dans des situations particulières ou pour des tâches précises, nous avons vu le sacrificateur Zacharie, le père de Jean-Baptiste, nous avons vu Pierre, nous avons vu Étienne, nous avons vu aussi Gédéon, revêtu de l'Esprit de Dieu, qui, avec 300 hommes, a défait des milliers, des centaines de milliers d'agresseurs, des Amalécites, il les a taillés en pièces. Mais aussi, nous voyons aussi que cette manifestation de l'onction de Dieu va amener sur la personne, outre des dons spirituels, va faire venir sur la personne de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance. Je vous renvoie à une prédication qui a été faite il y a plusieurs mois en arrière, qui s'intitule « Que signifie être rempli du Saint-Esprit ?» Et je développais ces trois choses en vous disant, être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est d'abord être rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Parce que mon frère, ma sœur, si tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu n'as pas la sagesse et que tu veux manifester les dons, tu risques de faire de gros dégâts. Il faut que les dons se donnent avec sagesse, avec intelligence. Et tu ne peux pas exercer des dons s'il n'y a pas la sagesse de Dieu en toi. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Et quand nous prétendons être remplis de l'Esprit, ce n'est pas parce que tu parles en langue ou que tu prophétises que tu vas me dire que tu es rempli de l'Esprit. C'est que je veux voir en toi ce fruit de l'Esprit qui est la sagesse et l'intelligence que Dieu t'a donné pour exercer les dons que Dieu t'a prêté. Parce que les dons ne nous appartiennent pas. Je vais te dire, mon frère, ma sœur, ton service ne t'appartient pas. Pourquoi tu dis ça, frère? Je dis parce que c'est comme ça que ça se passe. Un jour, Dieu dit à Élie, va Élie, allez, vas-y. Maintenant, tu as fini ton travail, va au Roi Élisée. Élie, le grand prophète, il venait de sortir d'un combat terrible avec Jézabel et les prophètes d'Astarté, etc. Il a fallu qu'il prenne une position spirituelle. Le grand Élie qui a commandé Dieu. Et Dieu a obéi au commandement d'Élie, il a fait tomber le feu sur l'autel. Pourtant, Dieu va lui dire maintenant, arrête Élie. Tu vas aller voir Élisée, tu vas le oindre. Élie a dû se dire, mais si moi j'abandonne mon service, qui c'est qui va me remplacer? T'en fais pas. Si Dieu te dit, reste tranquille, c'est qu'il va avoir pourvu à ton remplacement. Et Élie, il n'a pas voulu. Il lui jette le manteau, il lui dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Si tu veux, prends-le, si tu ne veux pas, ne le prends pas. En ayant l'air de dire, oh, si tu ne veux pas que je te file l'onction, reste à ta place, moi je la garde pour moi et je continue. C'était un prophète, Élie. Mais Élisée, il ne l'a pas lâché. Il ne l'a pas lâché. Il a fait en sorte de retirer d'Élie tout ce qu'il pouvait prendre de lui dans son service de prophète. Alors, nous voyons que là, les gens, les personnes qui, dont Dieu se sert, doivent refléter dans leur service, dans leur ministère, ils doivent d'abord refléter, avant toute chose, la sagesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez qu'on ne sert pas Dieu avec des arguments humains? Est-ce que vous ne comprenez pas qu'on est en train de servir le roi de l'univers dont je ne connais qu'une petite partie de poussière qui est la terre? Dieu qui gouverne des milliards de galaxies, des milliards de soleils et d'étoiles, Dieu qui a tout créé par sa parole puissante, et moi, petit vermisseau de vermisseau de vermisseau de vermisseau, je suis pasteur. Quel travail pour le Seigneur avec nous. Quel travail. Certains témoignages contemporains ont décrit des manifestations émotionnelles ou sensorielles. J'en arrive. J'arrive à ce que je dois arriver maintenant. Des picotements sur les mains, des fourmillements sur la tête ou dans tout le corps, une douce chaleur, une grande émotion intérieure. En réalité, rien de tout cela ne se remarque dans l'expérience de ceux qui sont loin dans le Nouveau Testament. Du moins, on n'en parle pas. Mais pas du tout. Moi, j'ai jamais vu dans le Nouveau Testament ce sorte de manifestation du Saint-Esprit comme nous les avons vécues ces dernières années. Montrez-moi un seul passage de l'Écriture. Alors, je ne veux pas dire, vous allez voir la suite, je ne veux pas dire que ce n'est pas possible. Je veux dire que le Nouveau Testament n'en parle pas. Certainement, parfois, des sensations physiques ou émotionnelles se produisent. Mais nous ne devons pas y attacher une importance primordiale, même si cela peut paraître encourageant. Il y a des personnes qui ressentent beaucoup, d'autres peu, et d'autres encore pas du tout. C'est vrai ou pas? Oh, il y a une présence de Dieu ici. J'ai les poils qui se hérissent. J'ai les cheveux qui se dressent. Et l'autre qui est à côté dit, mais moi je ne ressens rien. Ne soyons pas inquiets, car ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on ressent, mais ce qui se produit dans la réalité du revêtement de l'esprit, qui se manifeste principalement par la capacité à remplir le ministère ou le don reçu. Je ne me base pas mon ministère parce que je trempe des jambes. Je ne base pas mon ministère parce que j'ai fait dérouler et bouler par terre. Je ne base pas mon ministère parce que, oh là là, j'envoie des paillettes, mais parce que je suis ébloui, parce que je vois plus bien. Je dis pas que Dieu ne peut pas le faire. Attention. Mais je dis qu'on ne doit pas s'attacher à ça. Non. Pas à ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui est la base de notre foi. Et si tu fais de ça la base de ta foi, tu es en train de t'égarer. tu es en train de te perdre. Maintenant, si ça vous pique, vous pouvez vous gratter. Ne soyons pas inquiets, car ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on ressent, mais ce qui se produit dans la réalité du revêtement de l'esprit, qui se manifeste principalement pour la capacité à remplir le ministère ou le don reçu. Et quand nous voyons Jésus être rempli de l'Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, voilà ce que Jésus faisait. Il parcourait la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait toute maladie, toute infirmité. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et je vous rappelle ce que je dis souvent dans cette église, que le fondement de notre foi, c'est la parole écrite de Dieu. Ce n'est pas nos expériences, car nos expériences peuvent nous tromper. Et je ne ferai pas de l'expérience la base de ma foi. La base de ma foi, c'est la parole inspirée de Dieu, écrite. Du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse. Les témoignages d'expérience, lorsqu'ils sont confirmés par les Écritures, vous entendez bien, les témoignages d'expérience, lorsqu'ils sont confirmés par les Écritures, encouragent et glorifient Dieu. Mais ils ne peuvent être en aucun cas être le fondement de notre foi. Le fondement de ma foi, c'est la parole de Dieu. Solo, sola scriptura, comme disait Luther. Seulement les Écritures. Et rien que les Écritures. Parce que si nous croyons que les Écritures viennent de Dieu, et si nous croyons que toute parole est inspirée de Dieu, a reçu le souffle divin, a reçu l'inspiration de Dieu, alors je vais baser ma foi, non pas sur mes expériences, mais sur la parole vivante, permanente de Dieu. Ça, c'est les manifestations du Saint-Esprit. Maintenant, je voudrais qu'on voie ce nouveau chapitre qui s'appelle « La communication de l'onction du Saint-Esprit ». La communication de l'onction du Saint-Esprit. Très intéressant, n'est-ce pas? Frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire entrer Dieu dans notre cadre spirituel. Ce n'est pas parce que Dieu t'a touché de telle façon que tout le monde doit être touché comme tu as été touché. Nous sommes tous différents et il y a eu des approches de Dieu à notre égard d'une manière tout à fait différente. Moi, j'en ai l'expérience dans mon propre couple. Ma femme et moi n'avons pas été touchés de la même manière par Dieu. Et pourtant, le résultat, c'est que Dieu nous a touchés et que nous marchons vraiment avec le Seigneur dans ses voies. Donc, respectons l'autre. Et ne faisons pas une espèce de cliché dans lequel on ramènerait les gens à vivre ce que nous avons vécu. Alors, la communication de l'onction du Saint-Esprit. Parfois, le Seigneur communique l'onction par quelqu'un qui a été déjà oint. On va en voir des exemples. Dieu peut se servir d'un homme oint par lui pour communiquer l'onction à une autre personne. Par le moyen de l'imposition des mains, par exemple. Nous allons voir des exemples dans l'Écriture. Parce qu'il nous faut faire le tour de l'onction, vous comprenez? On ne peut pas enfermer l'onction de Dieu dans un carcan d'église ou dans une doctrine d'église. C'est toute la parole de Dieu que nous devons passer en revue. pour avoir une bonne approche de ce qu'est l'onction de Dieu. Alors, regardons. Dans le livre des Nombres, au chapitre 11 et au verset 25. Nombre 11, 25. Nombre 11, 25, il nous est déclaré que l'Éternel descendit dans la nuée et qu'il parla à Moïse. Regardez bien. Il prit de l'esprit qui était sur lui, c'est-à-dire sur Moïse, et le mit sur les 70 anciens d'Israël. C'est-à-dire que Dieu a pris de l'esprit qui reposait sur Moïse, il l'a mis sur les 70 anciens d'Israël, et dès que l'esprit reposa sur eux, il commença à faire à quoi ? Ils prophétisèrent. Voyez-vous ? Voyez-vous ? La manifestation de l'onction. Quand l'onction descend sur quelqu'un, il va se passer quelque chose. Là, en cas d'espèce, ils ont prophétisé. Mais Dieu avait donné une grande onction à Moïse pour faire l'œuvre à laquelle il l'avait appelé. Il a pris de cette onction sur Moïse. Et pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi Dieu, il n'aurait pas pu donner l'onction aux 70 sans passer par Moïse? Non. Parce que ce que Dieu fait est toujours bien fait. Il fallait que Moïse soit celui toujours sur lequel les yeux du peuple devaient être fixés. Il a pris l'onction qu'il y avait sur Moïse et les a communiqués aux anciens. Ainsi, Moïse, il faisait partie de ceux, et de ceux qui avaient reçu de la part de Dieu au même titre que ses frères. Ça, c'est Nombre 11 et verset 25. Maintenant, nous allons lire Nombre 27 et verset 18. Nombre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Ça veut dire que tu lui imposeras les mains. Impose-lui les mains. Des fois, nous avons besoin d'un toucher de Dieu. Et Dieu va se servir d'un de ses enfants pour aller vers un autre enfant et lui transmettre quelque chose de Dieu. Attention, ça ne veut pas dire que nous devons imposer les mains à tire-larigot. Parce que si tout le monde commence à imposer les mains, même ceux qui vivent dans le péché, alors là, il y aurait un petit problème pour ceux qui auraient un toucher sur leur vie. Alors, continuons. Nous voyons dans le Nouveau Testament, nous voyons ce passage de Timothée, 1 Timothée 4 et verset 14. 1 Timothée 4 et verset 14. Il est dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Voyez-vous, frères et sœurs, ce sont les anciens, en cas d'espèce, qui imposent les mains à Timothée. Mais dans les séminaires aujourd'hui, c'est la grande pagaille. Vous allez prier les uns pour les autres, faites des groupes, priez, allez. Vous ne savez même pas qui vous avez à côté de vous, qui vous touche et qui vous impose les mains. J'ai vu dans des séminaires des gens qui sortaient d'hôpital psychiatrique et qui ont imposé des mains à d'autres personnes. Il nous est parlé ici des anciens, des hommes qui sont reconnus des communautés, qui sont dignes de confiance, maris d'une seule femme, qui sont propres à enseigner, et qui sont amis de bien au lieu d'amis de l'argent, et qui sont dignes de louange de la part de leurs frères et sœurs, des hommes qui marchent droit. Paul va dire à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Frères et sœurs, il y a une reconnaissance des choses dans l'église du Seigneur. Si demain il venait ici une personne pour la première fois qui rentrerait dans cette église, au moment où au milieu de nous il y a une présence de Dieu et que cette personne elle se lève avec nous, elle veut m'imposer la main, mais moi je lui dis sors de là, tu n'as rien à faire là au milieu. Je ne me laisserai pas imposer les mains par quelqu'un que je ne connais pas. Parce qu'on a vu dans cet acte-là, souvent des personnes qui ont hérité d'esprits mauvais sur leur vie. De Timothée, chapitre 1, verset 6. Il est dit ceci, de Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. L'imposition des mains, frères et sœurs, c'est communiquer quelque chose à l'autre. Si je t'impose la main, mon frère, c'est soit pour te bénir, mais je vais avoir une communion avec toi, je vais faire passer quelque chose en toi. Mais il faut que ça soit bon, tu vois. Il ne faut pas que ça soit mauvais. Dans le Nouveau Testament, concernant l'Église de Jésus-Christ, l'onction d'huile n'est pratiquée que pour la guérison des malades. C'est la seule passage où nous voyons que l'onction d'huile est pratiquée, parce que c'est une chose qu'on faisait dans l'Ancienne Alliance et pas dans la Nouvelle. Mais là, dans ce cas d'espèce, c'est le seul passage dans l'Écriture où nous voyons que l'onction d'huile est pratiquée pour les malades. Et vous connaissez ce passage de Jacques, hein, chapitre 5, hein, si quelqu'un est malade, qu'il appelle toujours qui ? Les anciens. Ah, aujourd'hui, parce qu'on est un peuple de prophètes, de sacrificateurs, tout le monde fait tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Donc nous voyons l'onction d'huile là pour les malades. Par contre, nous remarquons souvent la pratique de l'imposition des mains dans certaines circonstances pour la consécration dans le ministère. Nous voyons par exemple dans Actes 6 et verset 6, dans l'église de Jérusalem, dans Actes 6, verset 6, c'est le début de l'église. Quand ils vont, n'est-ce pas, faire entrer dans le ministère les diacres qui servaient aux tables, vous connaissez bien les Philippe, les Procor, les Nicanor, etc., Timon, et il est dit au verset 6 qu'ils ont été présentés aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. C'est comme une certification que tu peux aller. Tu as l'approbation du serviteur, du ministère qui te dit va. Mais ils les présentèrent non pas à un apôtre, ils les présentèrent aux apôtres. Car toi, tout doit se faire sur la déposition et le témoignage de deux ou trois témoins.
Paul et Barnabas, puis Timothée sont introduits dans leur charge par ce moyen, par l'imposition des mains. Acte 13, verset 3. Acte 13, verset 3, il est dit « Mettez-moi maintenant à part. » C'est l'Esprit Saint qui dit ça. L'Esprit Saint dit « Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ayant jeûné et priant, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. » Et l'Esprit Saint dit « Mettez-moi à part Paul, Barnabas, mettez-moi à part ces hommes. » L'Esprit Saint est descendu sur eux parce que ils ont eu les mains imposées. Par qui ? Par qui ils ont eu les mains imposées ? Nous allons voir ça. Hein ? Il est dit au verset 1, qu'est-ce qu'il y avait là ? Or, il y avait en Antioche dans l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs. Alléluia. Oh, quelle église ! Prophètes, docteurs. Et Barnabas et Siméon appelés Niger, et Lucius le Cynéréen et Manahem qui avait été nourri par, etc., etc. Et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, mettez-moi à part maintenant. T'as compris? C'est le Saint-Esprit qui qualifie, mettez-moi à part. Je l'ai choisi, je l'ai appelé, mettez-le à part. Je le qualifie pour qu'il aille. Allez. Et c'est des docteurs et des prophètes qui ont imposé les mains. Aujourd'hui, on a fait de l'Église une espèce de pétaudière dans laquelle tout le monde fait tout et n'importe quoi. 1 Timothée, chapitre 4. Bon, on les a lus ces deux passages. 1 Timothée 4, 14 et 2 Timothée 1, 6, on les a déjà lus, donc on ne va pas y revenir dessus. Cette pratique n'était pas une ordination établissant une fonction ou un privilège hiérarchique. À preuve, la double imposition des mains reçues par Paul à Damas. Vous voyez ça dans Acte 9, 17. Deux fois, il a eu les mains posées. Acte 9, verset 17. Il est dit, ce fameux Ananias, ce disciple, que le Seigneur dit, va vers cet homme qui met un vase d'élection en parlant de Paul. Et Ananias s'en alla et entra dans la maison et lui imposant les mains, dit, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu, dans, etc., etc. Et que tu sois rempli, verset 18, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Paul. Il a reçu l'onction de l'Esprit par l'imposition des mains. Acte 9, 17. Et si on va en Acte 13 et verset 3, nous voyons à nouveau, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, que Paul, à nouveau, il reçoit une imposition des mains. Deux fois, il la reçoit. Par Ananias, le disciple, sur le chemin de Damas. Et puis maintenant, à nouveau par les docteurs et les prophètes. Comme une attestation. Comme une certification. Comme David a reçu trois onctions. Trois onctions, David, il a eu. Une onction par Samuel, quand il a été appelé par Dieu au milieu de ses frères. Une onction quand il a été roi de Juda. Et une onction quand il a été roi sur tout Israël. Trois onctions. C'est ce qu'on appelle la couronne de gloire. Trois onctions. Paul, il a eu double imposition des mains. Et chaque fois, le Saint-Esprit était là. Il faut que tu sois rempli et je te mets à part pour accomplir l'œuvre. Attestation. Confirmation. certification, qualification. Dans ce cas, l'imposition des mains accompagne et confirme le don spirituel que seul confère le Saint-Esprit. Elle doit être pratiquée avec sagesse et sans précipitation. 1 Timothée 5, 22. Et j'aimerais que vous puissiez le lire, ce verset. 1 Timothée 5, 22. L'imposition des mains accompagne et confirme le don spirituel que seul confère le Saint-Esprit. Elle doit être pratiquée avec sagesse et sans précipitation. 1 Timothée 5, verset 22, qui nous dit ceci. N'impose les mains précipitamment à personne et ne participe pas au péché d'autrui. Garde-toi pur toi-même. Pourquoi Paul dit ça? N'impose pas précipitamment les mains. Ne participe pas au péché d'autrui. Quand tu mets ta main sur quelqu'un que tu sais qu'il est dans le péché, ne le touche pas. Laisse-le d'abord qu'il se repente et qu'il vienne au Seigneur. Nous voyons très bien, frères et sœurs, qu'on ne peut pas s'amuser ou vulgariser ou faire entrer le Saint-Esprit dans nos œuvres personnelles en adaptant l'Esprit Saint à nos convenances personnelles. C'est impossible. On est en train de faire, on est contre la volonté de Dieu. Quand l'Église se départit des ordres donnés par le Seigneur, quand l'Église fait comme elle l'entend, ou comme elle le sent, ou comme elle veut le faire, et non pas comme Dieu le dit, elle n'est pas dans la volonté divine. Donc nous voyons là que Paul exhorte Timothée à ne pas imposer les mains trop hâtivement et de ne pas participer au péché d'autrui en lui disant « Garde-toi pur toi-même. » Rien dans l'Écriture ne permet de lier obligatoirement la réception d'une grâce ou d'un rite de l'imposition des mains. Dieu reste souverain et libre dans l'emploi de ses moyens. Tu ne peux pas faire de l'imposition des mains une pratique. Dieu est libre d'agir comme il veut. Tu ne peux pas en faire un rite parce que le Saint-Esprit fait comme il veut, là où il veut. Quand on impose les mains à des tas de gens d'une manière précipitée, quand dans des séminaires, nous voyons cet affolement charnel qui se fait dans les séminaires, où nous voyons que tout le monde veut utiliser les dons du Seigneur pour s'approprier un petit quelque chose de la gloire de Dieu, frères et sœurs, comment le Seigneur voit son Église? Rien dans l'Écriture ne permet de lier obligatoirement la réception d'une grâce ou d'un rite de l'imposition des mains. Dieu reste souverain et libre dans l'emploi de ses moyens. L'onction du Saint-Esprit, comme toutes les grâces excellentes et dons parfaits, viennent de Dieu. Ce n'est pas parce que je t'impose des mains que tu vas recevoir le Saint-Esprit. C'est Dieu qui décide. C'est pour ça que nous ne pouvons pas en faire un rite ou une habitude. C'est comme l'espèce d'ignorance biblique Franchement, quand on dit aux gens, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est cet abrutissement dans les choses du Saint-Esprit? Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? C'est Jésus qui te sauve. C'est pas parce que tu parles pas en langue que tu n'es pas sauvé. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ah bon? Pourtant, moi, c'est moi qui, dans l'église, j'accueille toujours les gens dans ma maison. Mais tu as le don de l'hospitalité. Ce n'est pas pour autant que tu dois parler en langue. Si Dieu a voulu te donner le don de l'hospitalité, pratique l'hospitalité. S'il veut te faire parler en langue, à condition que tu aies une petite interprétation à côté, moi, je veux bien, je ne suis pas contre. Mais je veux qu'on exerce ce à quoi on a été appelé par Dieu et ne pas imposer aux autres nos doctrines. J'en ai entendu de ces espèces de bourriqueries évangéliques. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. Mais où tu as vu ça, toi? Montre-moi dans l'Écriture. Et d'après ce que j'ai compris dans l'Écriture, c'est Jésus qui sauve, n'est-ce pas? C'est Golgotha, c'est la croix, c'est le sang qui a été coulé. Tu me dis que c'est parce que tu baragouines en langue. L'onction du Saint-Esprit, comme toutes les grâces excellentes et les dons parfaits, viennent de Dieu. Regardez ce que dit Jacques. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente et don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques chapitre 1, versets 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Enfin, nous remarquons dans le Nouveau Testament, notamment en ce qui concerne les ministères itinérants, apôtres, prophètes, évangélistes et certains enseignants qui travaillaient en étroite collaboration avec les églises, d'où ils partaient avec leurs recommandations et la prière, tout en étant sous la dépendance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est tiens, j'ai une place dans mon planning. Tu ne peux pas m'inviter dans ton église, là, ah ouais, j'ai une place pour toi. Ça, c'est t'y envoyer du Saint-Esprit, là où tu es en train de faire une histoire de ministère humain, là. Je te donne, moi, tu viens prêcher chez moi, la semaine prochaine, tu viendras prêcher chez moi. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Regardez comment il était fait. Regardez comme il était fait au moment de l'église naissante. Et nous en sommes tellement éloignés. C'est pour ça que cette église de la Odyssée, elle est aveugle, nue, misérable. Regardez, mes bien-aimés, ce qu'il est dit là, c'est tellement important. Il nous est dit que apôtres, prophètes, évangélistes et certains enseignants comme Apollos et Cénas, qu'ils travaillaient. Ces ministères travaillaient en étroite collaboration avec les églises, d'où ils partaient. Ils allaient vers ces églises avec les recommandations et la prière de leur église, étant sous la dépendance du Saint-Esprit. C'est ça le job, le vrai job de l'église. Eh bien, on en est loin. Très, très, très loin. Aussi, nous devons prier pour que le Seigneur rétablisse de l'ordre dans son Église avant son retour. Sinon, il y a peu qui seront enlevés. Parce que l'Écriture est claire. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il faut faire attention à la manière dont nous vivons notre foi. Il nous faut faire attention à la manière dont nous pratiquons les choses du royaume de Dieu. Est-ce que nous sommes ignorants? Est-ce que nous n'avons pas la même Bible? Oui ou non? Nous avons la même parole. Alors pourquoi nous ne fixons pas nos yeux sur la parole de Dieu pour être enseignés de Dieu? Et pour voir que peut-être que les bourricris que nous entendons n'ont ni queue ni tête dans l'Écriture. Parce que la majorité de ces choses-là, vous les trouvez dans la bouche de chrétiens charnels. Et comme il y a plus de charnel dans nos églises que de spirituel, je suis désolé, eh bien voilà où on est l'église. Elle est dans la confusion. C'est pour ça que nous devons rendre gloire à Dieu de nous avoir fait aimer sa parole plus que tout. Plus que tout. Nos vies sont guidées par la parole. Notre vie d'église est guidée par la parole. Nos projets par la parole. Tel homme ou telle femme a des projets dans sa vie, mais c'est Dieu qui dispose nos pas. C'est pour cela que ce soir, il est important que nous sachions que quoi que nous ayons comme service pour le Seigneur, nous devons le faire en collaboration étroite les uns avec les autres. Je ne vais pas me singulariser dans mon appel pour dire je suis ci ou je suis ça ou je suis l'autre. Ton appel et ton service, il ne dépend pas de toi, il dépend surtout des autres. Parce que tu auras beau te mettre les qualificatifs que tu voudras sur ta vie en disant je suis ci ou je suis là, mais si ton service ne porte pas de fruits, alors tu prêches comme une cymbale retentissante. Aucune parole pénétrera les cœurs. Même ceux qui t'écouteront, eh bien, ils seront fatigués de t'écouter. Le but, c'est que la parole de Dieu fasse son œuvre dans nos cœurs. Et si quelques services que nous ayons dans l'Église, nous devons le faire en collaboration les uns avec les autres. Le faire dans l'amour du Seigneur, étant les serviteurs de tous. Ne pas se prendre la tête en disant, oh là là, quel service que Dieu m'a appelé. Voyez-moi, je suis loin de l'Éternel. Non, mes frères et sœurs, c'est pas ça. C'est pas ça. Il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre cher Sauveur, tous genoux fléchissent, les nôtres les premiers, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.